BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et aujourd'hui, place au retail média qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Il est devenu un enjeu pour les marques entre visibilité, ciblage, proximité et ultra-personnalisation. L'intérêt ne cesse de grandir. Nous ferons le point sur ce marché en croissance avec mon premier invité, Alban Schleuniger. Il est directeur de l'activité Retail Media France chez Values. Et puis, une question, sommes-nous déjà entrés dans l'ère du commerce agentique? C'est la question que nous poserons à Roxane Laigle. Elle est cofondatrice et directrice générale de la deep tech Lemrock, une technologie qui permet aux enseignes de figurer sur les plateformes LLM et qui permettront aux consommateurs à terme de faire leur shopping sur ChatGPT. Restez avec nous, Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et c'est un marché en pleine expansion qui pèse déjà plus d'un milliard d'euros en France, en croissance de 18% sur la première partie de l'année selon des chiffres de la FEVAD. Pour tout comprendre au Retail Media, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Schleuniger. Vous êtes le directeur de l'activité Retail Media France chez Values. Et puis également à mes côtés, Claire Koraleski, notre experte retail qui connaît tout de ce secteur-là que vous suivez depuis ses débuts. Bonjour Claire.
Bonjour.
C'est un plateau que vous connaissez, alors bienvenue. Effectivement, peut-être un mot pour comprendre ce qu'est le retail média. C'est donc la stratégie publicitaire qu'une marque met en place directement sur les sites des distributeurs, mais aussi dans les magasins. Alors Alban, on en parle comme d'une tendance depuis plusieurs années, mais le retail média est clairement en train de changer de dimension. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? Est-ce que le marché est vraiment mature aujourd'hui?
Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est une tendance de fond. C'est un marché qui est très dynamique, hein, je le rappelle. C'est un marché qui permet à un distributeur, à une enseigne, de mettre une marque en contact directement avec ses clients. Sur la France, la dynamique, elle est bien plus forte qu'en Europe. On a un marché du retail média qui est en croissance et qui évolue quatre fois plus vite que le marché traditionnel publicitaire. Voilà, c'est une fierté nationale. On a vraiment des acteurs français qui poussent ce marché depuis maintenant 4 ans. Mais on ne peut pas parler de maturité. C'est un marché qui va continuer à évoluer. Les croissances, elles sont attendues dans les 4 prochaines années jusqu'en 2030. Mm-hmm. C'est un marché aux États-Unis qui a déjà dépassé le marché de la publicité télé. Donc il y a de beaux jours à venir, notamment en France.
Claire Koraleski.
Alors, oui, justement, quand on parle de la publicité télé, est-ce que à horizon 3 ans, 5 ans, est-ce qu'on dira c'est un média ou on dira encore c'est du retail média?
Alors, certains acteurs parlent de commerce média, puisque quand on est un distributeur, quand on prend une enseigne comme Intermarché, par exemple, ce sont des millions de personnes qui fréquentent cette enseigne chaque semaine. Donc, ça devient un média de masse, hein, donc un magasin, lorsqu'il est équipé d'écran, hein, donc le DOH, c'est un moyen de contacter pour une marque des dizaines de millions de foyers. Donc, ça devient une audience équivalente à ce qu'on peut trouver dans les grandes chaînes de télé traditionnelles.
Alors, on parle d'un marché. On disait que ce marché était fragmenté. Or, il est vraiment en train de se consolider. Depuis la fusion entre Values, filiale donc de l'association de la familiale Mullier, et celle des Mousquetaires, donc Infinity Advertising, il y a un an, quel est le premier bilan que vous tirez?
Alors le premier bilan, il est déjà humain, hein. C'est d'avoir rassemblé plusieurs équipes en une seule, en un seul lieu, mais également au niveau de l'offre qu'on peut adresser et qu'on peut proposer aux marques, notamment sur la verticale alimentaire, hein, des marques comme Danone, Coca-Cola, aujourd'hui bénéficient grâce à cette alliance d'un guichet unique. C'était ça la promesse initiale lors de l'alliance il y a un petit peu moins d'un an. Et donc cette promesse, elle a donné toutes ses preuves. On est aujourd'hui capable de toucher un foyer sur trois. Quand on fait l'addition des différentes enseignes dans cette verticale alimentaire, hein, Chronodrive, Auchan, Intermarché. Donc ça, c'est une vraie force de frappe et c'est surtout un moyen de simplifier l'accès à ces leviers publicitaires.
Alors effectivement, vous le dites, un Value, ce n'est pas que de l'alimentaire. En tout, il y a 18 enseignes. Est-ce que le retail média se développe de la même manière dans le bricolage et l'électroménager par rapport aux produits de grande consommation. C'est-à-dire que est-ce que la data d'un panier de bricolage, par exemple, elle s'exploite de la même manière qu'un paquet de pâtes en supermarché ?
Alors, d'un point de vue offre au sein de Values, on a traité l'ensemble des verticales. Donc, vous avez parlé de bricolage, mais aussi on peut parler de sport avec Decathlon, on peut parler de textile, lifestyle avec Kiabi. Toutes ces offres-là, on les a unifiées. Ensuite, effectivement, il y a des maturités différentes entre des annonceurs sur les leviers alimentaires. Mm-hmm. Je pense, ça fait parmi des annonceurs qui ont très très tôt, puisque le retail média, ça paraît nouveau, mais quand vous repensez à ce qui se faisait dans les années 90, les fameuses têtes de gondole, c'est du retail média. Donc ce levier-là, il a davantage été pris par ces marques-là. Et aujourd'hui, on est en train de suivre la même montée en puissance sur toutes les verticales. L'électronique grand public, chez Values, avec une enseigne comme Boulanger, il y a un dynamisme qui est exceptionnel.
Vous parlez effectivement de retail média en magasin des années 80. C'est vrai qu'on peut aussi penser au caddie à l'époque où il y avait des plaquettes qui étaient affichées.
Toujours.
C'est finalement,
toujours.
C'est ouais. Ça le retail média. C'est vieux comme le monde finalement.
Tout à fait. C'est vraiment les moyens publicitaires qu'une enseigne peut développer sur son site, sur ses magasins. Et la promesse, elle est simple, hein, c'est obtenir le meilleur moyen de toucher le consommateur final. Il y a une compétition folle entre les marques dans un magasin et il faut ce qu'on appelle nous trouver de la part de voix. Donc c'est ce que permet le retail média.
Alors c'est vrai qu'on appelle ça le retail média in-store, donc ça touche environ 90% des consommateurs dans les rayons, mais il est encore peu développé par rapport au web. Est-ce que le magasin est en train de revenir en force? Est-ce que c'est en train de dépasser ce qu'on fait sur le web?
Aujourd'hui, le magasin se digitalise fortement, notamment au travers d'applications fidélité. Vous aviez encore il y a 10 ans les programmes de fidélité qui étaient essentiellement concentrés dans des cartes. Aujourd'hui, le compagnon mobile, il est omniprésent et ça aussi c'est un nouveau canal au sein du magasin. On peut interagir avec des produits, on peut interagir avec des publicités et puis vous le voyez, vous avez quand même nombreuses chaînes de magasins qui installent des écrans avec des formats différents et ça aujourd'hui pour une marque de pouvoir communiquer avec cette puissance mais aussi avec cette réactivité. Il n'y a rien de plus rapide, de plus simple que de pousser une publicité sur un écran. Ce qui, par rapport à votre exemple du caddie avec le papier publicitaire, beaucoup plus long en termes de mise en place. Donc la réactivité au niveau du digital, elle est vraiment très très forte et c'est accueilli très fortement.
Il y a le digital et il y a aussi l'audio qui est en train de se mettre en place. Il y a eu des tests notamment dans une cinquantaine de magasins boulangers. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment est-ce qu'on arrive à l'analyser d'ailleurs?
Alors sur la chaîne Boulanger, effectivement, on a aujourd'hui une offre qui est complète. Au sein de Values, cette enseigne, c'est aujourd'hui un petit peu notre success story. Vous allez avoir en magasin avoir une capacité au niveau du visuel publicitaire avec des écrans, mais également, comme vous l'avez dit, avec de
Alors,
l'audio.
Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que le retail média audio? Parce que du coup, dans les magasins, on a de la radio,
oui,
on a de la musique. Là, ça veut dire qu'on a des spots publicitaires.
Absolument.
Qui sont ciblés, par exemple, si je suis dans le rayon des vis ou de peut-être...
L'annonceur, tout ce réseau audio, il est accessible en programmatique, hein, donc ça démultiplie la capacité de réactivité. C'est assez simple de programmer une campagne et vous allez pouvoir choisir les magasins d'un point de vue géographique. Les marques ont des objectifs différents d'une région à une autre, des prix différents, donc vous pouvez choisir un code postal, une ville, mais vous allez pouvoir aussi effectivement choisir un rayon. Et aujourd'hui, ce levier audio, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas préempté uniquement par des marques captives, hein, donc pour Boulanger, du Samsung, etc. Vous avez également du hors captif, et vous avez par exemple des concessions automobiles.
De la boulangerie,
voilà.
Ce genre de choses.
Et donc par exemple, les concessions de la marque MG Motors ont testé ce levier-là et ont pu mesurer, grâce à des boîtiers en magasin, ont pu mesurer comment cette publicité impactait la visite dans leur concession.
Et alors, diagnostic, ça fonctionne ?
Ça fonctionne très très bien et on est capable de mesurer que le coût unique d'une visite dans ces concessions MG est inférieur à 2 euros. Et donc ça, c'est grâce à ces fameux boîtiers que vous retrouvez dans les magasins boulangers qu'on avait installés également dans les concessions MG.
Claire. Alors, on vient de parler effectivement d'un certain nombre de leviers, on vient de parler du site web, on vient de parler de la radio, on vient de parler du magasin. Alors, on a, je suppose, des campagnes aussi autour de l'omnicanalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis, cette mesure, parce que c'est vrai que je pense que les marques, elles ont envie de comprendre s'il vaut mieux prendre trois leviers, deux leviers, un levier.
C'est une très bonne question et c'est vraiment la feuille de route de Values sur cette année 2026, mais également sur 2027. Elle est centrée, focalisée sur l'omnicanalité. L'exemple de Boulanger, encore une fois, il a été testé par, il y a plus de 20 marques qui ont testé ce concept d'omnicanalité, qui est de toucher, de multiplier les contacts avec leurs clients, avec de l'in-store, avec les écrans, mais également avec de l'audio en magasin, mais aussi le site internet de Boulanger. Et maintenant, la force qu'on a chez Values, c'est de pouvoir toucher le client aussi à l'extérieur de tous ces leviers-là, donc ce qu'on appelle l'extension d'audience. Vous êtes chez vous, vous regardez une vidéo sur YouTube, grâce à la carte de fidélité, lorsqu'on a le consentement, bien entendu, on peut cibler la publicité dans cet environnement d'extension d'audience. Et donc, on va multiplier ces touchpoints, ce qui va permettre de massifier les points de contact et de massifier le retour sur investissement. Comment on fait ? C'est assez technique, hein, mais je vais essayer de le simplifier. On va être capable, grâce à la carte de fidélité, encore une fois, si vous n'avez pas cette carte de fidélité où on va retrouver les passages en magasin, les visites sur le site, on va être capable d'isoler chaque touchpoint. Qu'est-ce qu'a apporté le magasin avec sa publicité ? Qu'est-ce qu'a apporté le site avec sa publicité ? Et donc, chez Values, on va unifier cette mesure pour mesurer l'incrément et bien sûr pour la marque son retour sur investissement.
Alors rapidement Alban, puisqu'il nous reste une minute, mais vous disiez que la France était quand même très en avance quand on regarde l'Europe. Mm-hmm. Vous êtes présent dans quelques pays autres en Europe. Quelle est l'ambition dans les années à venir d'ici à 2030, puisque vous nous évoquiez des chiffres qui allaient jusqu'en 2030. C'est quoi la suite logique là ?
Alors aujourd'hui on accélère très très fort. Hein. On a déjà ouvert 4 bureaux au niveau européen. Donc l'Espagne, l'Italie, la Pologne. On a également une présence qui s'est accélérée ces derniers mois puisqu'on a 8 territoires aujourd'hui, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Ça, c'est un levier de croissance qui est très fort pour Values. Et bien entendu, si on veut offrir au paysage européen, aux annonceurs, une alternative à Amazon, hein, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, d'un marché qui est quand même globalement dominé par un unique acteur. Hein. 70%, tout à fait. Nous, c'est l'ambition qu'on a, hein, c'est d'apporter une alternative européenne. Et donc, on a effectivement cette ambition de continuer à ouvrir des territoires. Et ça se passe très bien.
Merci beaucoup, Alban Schleniger. Restez avec nous, on va continuer de parler Retail Media.
Focus Retail, le décryptage.
Alors c'est vrai, quand on parle retail média, le grand gagnant c'est toujours Amazon. On le disait avec Alban, il occupe 70% du marché. Est-ce qu'il est encore possible de le concurrencer aujourd'hui, Claire ?
Alors on va y voir, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment cette dichotomie entre de se dire, bon, en France c'est 70%, aux États-Unis c'est encore 80% du marché du retail média qui est capté par Amazon. Donc alors que Amazon ne représente que 5,2% des ventes, si on regarde en tant que retailer. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a complètement une dichotomie. Alors, c'est aujourd'hui la force d'Amazon, c'est d'avoir su vendre des produits, mais donner la data, les insights, la mesure, pour pouvoir effectivement être très bon en retail média. Mais aux questions suivantes, vous verrez qu'on a, on a des réponses.
Justement, est-ce qu'on a les armes, nous, en France, pour rivaliser ?
Alors, bien sûr, on a les armes pour rivaliser. Pourquoi ? Parce que ça a été un peu évoqué. En France, c'est vrai que le retail média, il est par nature très vite devenu omnicanal. On a très vite fait rentrer le magasin, alors avec le shopper marketing avant, mais en tout cas, le magasin est rentré dans le retail média. Les retailers français sont assez équipés en écran par rapport aux États-Unis. Donc, beaucoup de retailers français ont installé des écrans pour des publicités. Et on exploite notre data, puisque les retailers français avaient des programmes de fidélité. Donc donc ont de la data shopper. Donc si on regarde effectivement ce que la clé de succès d'Amazon, on a fait entrer l'omnicanalité, on a la data et on a l'audience massive. Effectivement, Alban, vous venez de le dire, le samedi de la rentrée des classes, si on regarde le nombre de clients qui ont été exposés à des écrans publicitaires chez Auchan ou chez Intermarché cumulé, bah ça dépasse l'audience de The Voice Kids. Donc on est vraiment dans un média massif possible aujourd'hui en magasin.
Si on élargit à l'Europe, donc on le disait, la France est plutôt bien placée. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui progressent quand même?
Alors effectivement, en Europe, on est le plus avancé. Et derrière, on pourrait dire que c'est peut-être la Pologne. Alors la Pologne, on retrouve aussi des retailers français qui ont su apporter le modèle du retail média omnicanal. Donc on va avoir effectivement la Pologne et puis l'Espagne. On va dire que c'est à peu près le podium. Là où l'Angleterre, l'Allemagne, pour des raisons différentes, on voit du média, mais c'est assez porté dans les contreparties, donc plutôt dans les échanges marchandises, donc c'est pas exactement du retail média. Et puis en Italie, au Portugal, c'est autre chose. Il y a quand même la fragmentation du commerce physique qui donne pas la même puissance. Et si on reparle des États-Unis, en termes d'in-store, il faut pas oublier qu'aux États-Unis, ils étaient à l'origine assez avancés avec tout le print, avec effectivement tous les publicités papier, et ils n'ont pas évolué.
Alors ils sont restés au papier.
Voilà, il y a pas beaucoup de retailers qui ont généralisé tout leur parc en DOH. Alors il y a certainement un problème de scalabilité vu la taille des États-Unis, mais là encore, les Français, on est devant les États-Unis sur le retail media in-store.
Eh bien, quelle bonne nouvelle. Merci beaucoup, Claire, pour votre expertise. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Près de 60% des consommateurs déclarent utiliser l'IA pour leur shopping en ligne. Alors c'est plutôt avant d'acheter, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un moyen de présélectionner nos objets, ce qu'on achète en tout cas. Roxane Leck, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Lemrock, que vous avez cofondé en 2025. Première question, est-ce que ça y est, on est rentré dans l'ère du commerce agentique ?
Bien, la réponse est oui. Vous avez cité un chiffre qui est 40%. Parfois, certaines études vont jusqu'à 60%.
60.
Voilà, c'est ça. Donc, entre 40 et 60% en fonction des études. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui utilisent l'IA, effectivement, pour prendre une décision d'achat, pour comparer des produits. Et maintenant, depuis récemment, donc depuis quelques mois, et c'est tout l'objet de Lemrock, on est capable de vendre aussi à l'intérieur des IA conversationnelles. C'est ce qu'on appelle le commerce agentique. Et donc, c'est le fait que les utilisateurs ne vont plus forcément aller uniquement sur les sites des retailers, des marchands pour acheter, mais vont pouvoir le faire à l'intérieur des IA conversationnelles.
Donc, c'est-à-dire que vous connectez les catalogues de marques, comme d'ailleurs vous travaillez avec une centaine de marques aux États-Unis et en France, Maison du Monde, Darty, Cdiscount. Donc, vous les connectez directement aux plateformes LLM. Et pourtant, vous dites effectivement faire son shopping sur ChatGPT, ça, c'est pas encore d'actualité, on est bien d'accord.
En fait, ce qui est possible aujourd'hui, c'est d'ouvrir des encarts commerciaux à l'intérieur de ChatGPT et d'autres IA conversationnelles. Déjà, la première chose à comprendre quand on parle de ce marché, c'est que tous les yeux sont focalisés sur les big tech, ChatGPT, etc. Mais en fait, le conversationnel, il y en a partout. Il y en aura sur les sites des retailers de plus en plus. Donc, on en a parlé juste avant dans l'émission. C'est vraiment une nouvelle interface qui va commencer à se démocratiser aussi sur les sites, par exemple, des retailers, par exemple, boulanger, on travaille avec eux. Aussi partout sur le web. Donc, ça, c'est vraiment un premier point à avoir en tête. Les conversations sont partout. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point à avoir en tête, c'est que, effectivement, on a une différence entre ce qu'on appelle le GEO, vous en avez peut-être entendu parler, et le commerce agentique. Le GEO, c'est vraiment le début du funnel, c'est le fait que ChatGPT va parler de votre produit. Et donc là, l'enjeu pour les marques, c'est d'influencer la façon dont le LLM parle du produit. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on va vraiment compléter la réponse du LLM avec des encarts commerciaux dans lesquels on va être capable de pousser le bon produit au bon moment à la bonne personne. Et ensuite, la fin du parcours, donc vraiment la partie transactionnelle, va s'opérer sur les sites des marchands en question.
Donc, c'est comme une vitrine, finalement, où vous pushez des objets de biens de consommation, enfin en tout cas en fonction de la recherche qu'on fait.
Exactement.
Alors je pense que c'est intéressant, l'exemple par exemple de boulanger, on voit bien dans cette relation, il y a à la fois le retailer qui vend le produit et il y a là potentiellement le produit qui va être mis en avant. Donc soit c'est du private label et dans celle-là ce n'est plus qu'un en MDD, soit c'est une marque. Alors comment vous gérez, parce que encore une fois boulanger, il veut que quand il met en avant un produit, le bénéfice il soit pour chez lui après. Je sais pas.
C'est une très bonne question. Effectivement, on a parlé beaucoup du retail média juste avant. En fait, on assiste à un nouvel inventaire de retail média qui est en train de s'ouvrir. Donc, on a parlé de l'audio. Ça, c'est effectivement une mutation qui a eu lieu il y a quelques années, mois. Maintenant, le conversationnel est une nouvelle surface qui peut être investie par les retailers comme surface de retail média off-site. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on a un retailer qui vend à un fournisseur, fournisseur 1. Le retailer va être capable d'ouvrir des encarts conversationnels sur ChatGPT, autre IA conversationnelle, et de vendre le fait pour le fournisseur 1 d'apparaître de façon privilégiée dans l'encart du retailer à l'intérieur de cette IA conversationnelle. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui commencent à émerger, mais on travaille déjà avec des acteurs du secteur pour ouvrir cette nouvelle surface de retail média conversationnel.
Ce qui est intéressant aussi, c'est l'hyper-personnalisation des parcours des consommateurs sur ChatGPT et également des intentions d'achat. Ça, c'est ce que vous monétisez finalement.
Tout à fait. En fait, c'est un nouveau paradigme où jusqu'à présent, les consommateurs allaient chercher eux-mêmes, taper des keywords dans une barre de recherche et aller chercher le produit. Maintenant, c'est vraiment un nouveau paradigme où finalement, c'est le marchand qui doit venir au consommateur final. Et c'est là où tout est le cœur en fait et l'enjeu, c'est qu'en fait on va être capable de personnaliser en fonction de chaque utilisateur le produit qu'on pousse et à quel moment. Et nous, c'est vraiment ça qu'on construit chez Lemrock, c'est ce modèle d'intelligence. Donc on est labellisé Deep Tech, on a levé des fonds pour faire ça, pour être capable de construire un graphe qui pousse le bon produit au bon moment dans une conversation donnée en temps réel. Et c'est vraiment la valeur qu'on va avoir pour tous nos clients.
Alban, je vois que vous acquiescez, vous avez une question ?
Non, mais ça me fait réagir sur ce qu'on a vécu finalement il y a une dizaine d'années avec Google, son moteur de recherche, où il fallait pour un retailer, pour une enseigne, alimenter avec les bonnes données pour être présent dans Google Shopping. On retrouve exactement les mêmes enjeux. Le retailer aujourd'hui avec son catalogue de produits. Le type de marque, le prix du moment, son état de stock. Il faut répliquer ce réflexe et il va falloir alimenter. Il faut déjà le faire. On va arriver dans une période phare sur cette fin d'année avec le Black Friday et la période de Noël. On a déjà eu des chiffres l'année dernière sur justement l'impact de ces LLM, et c'est aujourd'hui ça sert majoritairement à avoir des recommandations pour faire de la comparaison. J'ai un besoin, quel est le meilleur conseil, quel est le meilleur produit. Donc ça, c'est une obligation du point de vue retailer d'alimenter avec les bons chiffres, les bonnes data, le bon catalogue produit. Ensuite derrière, est-ce que ça a tout de suite un impact sur les ventes? Nous aujourd'hui on a un baromètre chez Values, comme vous l'avez dit, qui mesure ce GEO, donc le trafic que les moteurs apportent, mais du coup ces moteurs ne vont pas jusqu'à la transaction. C'est ce qui manque pour faire la boucle, et moi je m'interroge aujourd'hui sur une verticale comme l'alimentaire, où une grosse part quand même du panier est liée à une carte de fidélité avec des promotions, c'est-à-dire qu'un client qui ne pourra pas appliquer ces réductions sur sa carte de fidélité ne va pas aller au bout de son achat. Donc comment cette remise fidélité aujourd'hui elle pourrait être prise en compte dans un LLM? Aujourd'hui pour moi c'est pas possible, et je le précise quand même parce que c'est important, on en parle beaucoup. Chez un retailer aujourd'hui sur son trafic e-commerce, c'est même pas 1% aujourd'hui qui est apporté par des LLM. Donc c'est en forte progression, mais ça reste encore tout petit, donc on a le temps de se préparer et c'est un sujet d'actualité, il faut le faire parce que ça va arriver, ça grossit vite, mais aujourd'hui c'est minuscule.
Et peut-être juste pour rebondir sur quelques points qui ont été mentionnés, en fait effectivement, aujourd'hui, le seul levier jusqu'à très récemment qui était disponible, c'est le GEO, et ce qui fait qu'en fait, effectivement, la part du trafic était limitée. Maintenant, avec le fait que les encarts commerciaux s'ouvrent à l'intérieur de ces surfaces, on s'attend à ce que le 1% croît très fortement dans le futur. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce a été mentionné, c'est que globalement, on parle beaucoup de ChatGPT, de ces big tech, mais en fait, aujourd'hui, il y a plein d'autres interfaces conversationnelles. Et dans l'alimentaire, par exemple, nous, on travaille avec Marmiton, l'interface conversationnelle de Marmiton, où à l'intérieur, en fait, on va pouvoir pousser le bon produit au bon moment à la bonne personne, peut-être de façon même encore plus qualifiée qu'à l'intérieur de ces IA conversationnelles-là. Donc, on Tu parlais de la comparaison avec Google. En fait, à la différence de Google où c'était un monopole, aujourd'hui c'est fragmenté. Et c'est pour ça aussi que des solutions comme l'Emrock sont utilisées. C'est pour pousser le bon produit à l'intérieur de l'ensemble du réseau conversationnel.
Merci beaucoup Roxane Legle. On avait encore plein de questions, mais on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Claire, Céline Dion donnera le premier de ses 16 concerts à Paris ce week-end. Alors après les grands événements sportifs, les méga concerts sont-ils devenus le nouvel Eldorado du retail et des marques ?
Alors tout à fait. Si on se souvient, effectivement, on était tous à regarder les chiffres, qu'est-ce que les JO avaient apporté. Et on commence à voir, la Banque de France a estimé que les JO ont apporté 0,25 points de PIB au troisième trimestre 2024 en France. Donc on sait que ça a un impact économique. Et on sait aujourd'hui que ça ne s'arrête pas là. L'entertainment, c'est pas que le sport, c'est aussi les concerts. Aux États-Unis, on a aussi mesuré, je n'ai pas le chiffre, mais l'impact des concerts de Taylor Swift. Et là, on attend beaucoup de Céline Dion. On sait déjà que la réservation hôtelière à Paris a effectivement multiplié par 900% par rapport à 2025 sur la même période. Et on estime à une remontée à peu près de 300 millions d'euros de retombées économiques. Il y a 500 000 spectateurs qui vont venir la voir. Et la plupart, un tiers seront étrangers.
Alors, en dehors du tourisme, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont bénéficier de cet immense afflux de fans, finalement ?
Alors, complètement, on va voir. On va parler d'enseignes, on va parler de marques. On sait aujourd'hui qu'il y a une grande corrélation entre les fans qui vont aller voir Céline Dion et ceux qui vont passer aux Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette l'ont bien compris. Ils ont fait un pop-up store dédié, du merchandising dédié avec une collaboration avec Maje et Pierre Hermé pour le concert de Céline Dion. La FNAC aussi sort deux pop-up stores autour de ce concert avec La Défense et le Forum des Halles. Et on voit aussi donc la mise en avant dans la FNAC d'un certain nombre d'animations et de concours sur les loges de Céline Dion et autres.
Elle ne va pas venir chanter dans les rayons de la FNAC ?
Non,
pas encore, dommage. En dehors des distributeurs, il y a aussi les marques, les industriels. Là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, tout à fait. Alors, JC Deco, donc là, on est plutôt effectivement sur l'afficheur qui a décidé de proposer aux marques la Céline Paris Expérience. Donc effectivement, vous pouvez vous retrouver devant tous les panneaux publicitaires où vont passer les fans pour aller au concert. Donc on comprend bien vraiment que vous êtes en média utile sur la bonne cible. De l'aéroport, les étrangers qui arrivent, jusque la salle de concert. On a aussi effectivement Coca-Cola zéro sucre et zéro caféine qui est partenaire officiel du concert de Céline Dion. Donc là, effectivement, il y a une revendication de ce partenariat en point de vente chez les retailers et bien évidemment sur place lors du concert. Et d'après une étude AEG, effectivement, on se rend compte que un fan de musique live sur deux déclare avoir déjà acheté un produit à la suite de sponsoring de marque. Donc on voit bien que ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Et dans la Gen Z, on est à 3 sur 4. Donc dans effectivement la population la plus jeune, les marques présentes dans ces événements ont un impact derrière clairement sur les ventes.
Merci beaucoup Claire pour cette expertise. Vous allez aller la voir ou pas, Céline Dion ?
Ah oui, j'ai la chance d'aller la voir.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Retail Media. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. On sera sur le salon de la NRF à Paris. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.